Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers niveau, en votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 14 mai. Voilà le menu, on va commencer par parler à nouveau des transports parisiens, situationnels et lycées, mais également, apparemment, Valérie Pécresse veut décapiter deux groupes d'opposition au Conseil régional d'Île-de-France. Tout ceci avec Madame Céline Malaisé, présidente du groupe communiste, écologiste et citoyen du Conseil régional Île-de-France. Après, on parlera également de la quinzaine du commerce équitable qui a démarré hier. Et s'est poursuivi jusqu'au 28 mai. Un livre Migration Le Creuset Clermontois du 19e au 21e siècle aux éditions Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand. On ira également au théâtre avec la pièce d'Ordio Umavig Vide de Cor qui va être représentée à la Cité Universitaire. Parlera également de l'auteur, compositeur, interprète Soalam qui est en résidence au théâtre municipal de Bry-sur-Marne. Et finalement, on va parler des chants. Les voix des femmes qui a été inscrite à la liste nationale portugaise des patrimoines culturels matériels. Mais déjà, Madame Céline Malaisé, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Alors, on a un certain nombre de thèmes à débattre, mais on va se centrer déjà par rapport au lycée, parce qu'apparemment, le ministère de l'Éducation maintient sa volonté de fermer le lycée François Rabelais. Ça, c'est le Paris 18e, sauf erreur.
Alors, pour l'instant, on attend sa réponse au ministère de l'Éducation nationale parce qu'on l'a sollicité. Le lycée Rabelais est le seul lycée public d'enseignement général et d'enseignement technologique du 18e arrondissement de Paris. Mmh. Il est depuis le début de l'année 2020 fermé parce qu'il était extrêmement vétuste et il a, suite à une tempête, dû être fermé. Donc, ses élèves sont un peu dispatchés dans tout Paris. Et nous avons appris à l'automne dernier que le conseil régional présidé par Valérie Pécresse avait dans l'idée de fermer cet établissement-là, alors que des travaux avaient été commandés depuis l'automne 2020. Et il devrait être fermé de manière définitive en septembre 2024. Pour nous, c'est inacceptable parce que c'est le seul lycée public d'un arrondissement comme le 18e arrondissement, qui est un arrondissement populaire encore dans Paris. Mmh. Et donc, nous avons sollicité, il y a une quinzaine de jours, le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il revienne sur cette décision qui serait incompréhensible. Et donc, nous attendons sa réponse, mais nous avons bon espoir que finalement, il prenne une décision qui soit contraire à cette décision incompréhensible prise par la droite de Valérie Pécresse.
Alors, il faut dire justement que les lycées, c'est de la responsabilité du conseil régional.
Les bâtiments, tout à fait. Les bâtiments sont de la responsabilité du conseil régional qui doit finalement faire en sorte que les lycéens et les personnels puissent travailler et étudier dans de bonnes conditions, dans des bâtiments qui soient corrects. Ce qui n'est pas le cas, on a plein d'exemples dans toute la région, mais là, sur la fermeture d'un lycée public et du seul lycée public, c'est du jamais vu en fait dans l'histoire des lycées en Île-de-France. Et puis ça s'inscrit dans une série de fermetures, puisque il y a sept lycées, notamment des lycées professionnels, qui seraient fermés à la rentrée de septembre 2023 à Paris. On aurait dû avoir ce qu'on appelle un conseil interacadémique de l'éducation nationale qui aurait dû décider de cette fermeture au mois d'avril. Nous sommes minés, nous n'avons aucune nouvelle de ce conseil interacadémique de l'éducation nationale. Et tout ce que nous savons, c'est que la droite régionale disait on ferme des lycées professionnels parce qu'il n'y a pas suffisamment de lycéens et on veut faire des économies. Et pour l'instant, ils ont déjà engagé 15 millions pour des travaux qui devraient avoir lieu dans les lycées qui vont accueillir les lycéens. Et ce qui nous était dit, c'était que c'était 30 millions d'économies, donc la moitié est déjà finalement utilisée par des travaux d'adaptation. Donc tout ça n'a aucun sens et c'est un énième finalement mauvais traitement vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des personnels de l'éducation nationale et vis-à-vis de l'éducation dans la région.
Oui, dans l'ensemble. Oui. Pourtant, il paraît que l'enseignement professionnel, c'est une priorité de M. Emmanuel Macron. Alors, revenons au transport. On avait déjà parlé de ce qui se passe, la possible ou la probable privatisation certaines des lignes de la RATP. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des lignes 16 et 17 du métro? Apparemment, eh bien, l'exploitation va être donnée à Keolis. Alors, Keolis, il faut le dire, qu'une partie du capital, savoir 30% du capital de Keolis, est détenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ça veut dire que les transports parisiens intéressent des exploitants étrangers?
Bah, ça veut dire que la loi, dans les nouvelles lignes, oblige, tant qu'on ne l'a pas changé, finalement, à mettre tout ça à concurrence, et que c'est une filiale privée de la SNCF, donc ça n'est pas l'entreprise publique de la SNCF, mais une de ces filiales privées, dont une partie du capital est détenue par des étrangers, enfin des fonds d'investissement étrangers, qui a candidaté et qui a été retenue, et quand on sait que c'est la question du prix, qui est le critère le plus important dans le choix des différents candidats, on a de quoi s'inquiéter parce qu'on sait que dans les transports, 70% en fait du prix sur le fonctionnement des transports, c'est quelque chose qui a à voir avec les conditions de travail et notamment les conditions salariales des agents. Donc nous, ça nous inquiète beaucoup. On a fait un communiqué de presse un peu provocateur en disant que Keolis n'était pas le bienvenu sur ces deux lignes de métro, ces futures lignes de métro, parce que ce serait une première et c'est quelque chose d'inédit dans la région. Et donc, en fait, c'est ce processus de privatisation qui est en train de se mettre en place progressivement. On en avait parlé pour les bus, mais maintenant, ce sera les métros, bientôt les transiliens, et puis plus tard les RER, si on ne parvient pas à arrêter. Mais nous avons bon espoir d'expliquer que ça ne va pas et d'essayer de trouver les moyens pour faire demi-tour. Voilà. Donc,
mais Madame Alizé, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui fait la Société du Grand Paris au milieu de tout ça?
Alors la Société du Grand Paris, elle, c'est pas pour l'exploitation, c'est pour la construction en fait de ces lignes-là. Et donc une fois que les lignes sont construites, ce sont des appels d'offres qui sont lancés pour l'exploitation de ces lignes sur une durée déterminée. Et c'est ça en fait qui est en train de se placer, donc de se passer en ce moment. Donc la Société du Grand Paris, elle, c'est tout ce qui est préalable à l'exploitation. Et ensuite, Île-de-France Mobilité, finalement, est l'autorité qui organise tout ça, mais qui délègue l'exploitation de lignes, de bus et ici de métro pour la première fois.
Eh bien, bon, peut-être que M. Castex va envoyer des propositions. M. Castex, c'est lui qui dirige le RATP. Ça, c'est pour nos auditeurs. Ouais. Alors, entre-temps, bon, l'opération Stop Galère continue. On aura le temps de parler de cette réunion, puisqu'elle aura lieu le 22 mai, et ça sera à Cergy, je crois, c'est ça?
Voilà, on a une réunion, donc une nouvelle réunion Stop Galère dans les transports en Île-de-France à Cergy le 22 mai, et puis le 25 mai, on va aussi dans le Val-de-Marne, on va à Arcueil. Et donc, ce sera la 14e mais 15e réunion publique que nous faisons. Nous avons vu des centaines de milliers de franciliens sur ces questions-là, nous expliquons, et puis nous en avons vu plusieurs milliers dans les réunions publiques que nous avons fait un petit peu partout en Île-de-France. Donc la bataille continue pour des transports publics, pour des transports de qualité et surtout pour des transports aussi avec un coût accessible. Parce que privatiser, ça coûte cher. Et ce sont les usagers, au bout, qui vont devoir payer, en fait, ces mauvais choix politiques. Donc, tout ça, nous dénonçons. On propose d'autres alternatives qu'on propose à la présidente de la région qui n'écoute pas, parce qu'elle est dogmatique, mais qu'on propose aussi au ministère, au ministre des Transports, avec qui on a des échanges régulièrement et qu'on espère, qu'on ne désespère pas de convaincre.
Voilà, entre-temps, il faut espérer aussi que la carte imaginaire pour les étudiants ne soit pas augmentée au mois de septembre. Alors, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du groupe Les Républicains, l'UDI, parce qu'ils veulent modifier le règlement intérieur, et à savoir jusqu'à maintenant, pour avoir un groupe, il suffit de 7 élus. Et maintenant, je ne sais pas si ça a été adopté ou pas, il y a eu un amendement que pour avoir un groupe, le seuil nécessaire maintenant, c'est de 10 élus pour constituer un groupe politique. C'est quoi, comment est-ce que... D'ailleurs, il y a deux groupes, c'est le vôtre et celui des Insoumis, qui risquent de disparaître, c'est ça?
Ils sont menacés, tout à fait. C'est une attaque démocratique sans précédent. C'est une attaque contre le pluralisme politique dans l'organisation des groupes politiques à la région. Alors, pour les auditeurs et les auditrices, avoir un groupe politique, ça signifie en fait avoir le droit d'amender, avoir du temps de parole, avoir des moyens aussi, des locaux, des moyens financiers aussi pour avoir des collaborateurs. Et en fait, c'est indispensable pour pouvoir exercer de manière correcte son mandat politique. Bien évidemment, relever le seuil, ce qui entraînerait la disparition, alors c'est pas fait. Hein. Ce sera fait au 31 mai et nous allons mener la bataille pour que la présidente de région revienne à la raison et finalement désapprouve cette façon de relever le seuil. Ce seraient deux groupes politiques qui disparaîtraient. dont le groupe communiste. Alors on y a une lecture politique parce que on a parlé de stop galère. Stop galère est quelque chose qui a montré que dans les transports en Île-de-France, ça ne fonctionne pas bien en ce moment. Et si la conséquence c'est que on veut nous priver de droit de parole parce que nous sommes des élus d'opposition qui faisons consciencieusement notre mandat d'opposition, ce serait une attaque sans précédent. Ce serait un peu comme ce qui se passe au niveau national pour essayer de bâillonner les oppositions. Nous, on ne l'acceptons pas. Voilà. Nous considérons que ce n'est pas à Valérie Pécresse et à la droite régionale de nous imposer de la manière dont on doit fonctionner. Et puis, pour les communistes, depuis que la région Île-de-France existe, il y a toujours eu un groupe communiste dans la région Île-de-France. Et donc, on va mener la bataille, convaincre. Voilà. Alors à gauche c'est facile, mais aussi convaincre des grands élus de droite que créer ce précédent-là, ce serait déflagrateur pour plein de nos villes, des départements, parce qu'en fait on a besoin de débats politiques, on a besoin de pluralisme politique. On est dans un pays où la crise démocratique est extrêmement importante, où on a un affaiblissement de la démocratie, même un affaissement de la démocratie. Et supprimer des groupes politiques d'opposition, ce serait déflagrateur. Voilà.
Mais Madame Malizet, une question. Bon, il s'agit d'un règlement intérieur hein, du Conseil régional des Français. Est-ce que ça peut être pas avoir un recours ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer? Parce que s'il y a un vote à faveur de ce changement, donc relever de 7 à 10 élus pour avoir un groupe politique, bon, quel recours vous avez exactement?
On a en fait un recours à la raison politique. Sur le recours judiciaire, juridique, nous sommes en train d'étudier. Mais je crois que le combat, pour l'instant, c'est surtout un combat politique jusqu'au 31 mai, qui est le jour où ça serait voté, pour faire revenir à la raison. Voilà, il n'est pas... En fait, Valérie Pécresse a subi une mésaventure présidentielle. Elle doit avoir beaucoup de problèmes au sein de son groupe de droite parce que beaucoup d'élus de droite doivent considérer qu'il faut peut-être prendre ses distances avec elle. Mais nous sommes le groupe d'opposition, nous nous opposons sur le fond politique et donc elle ne peut pas régler en fait ses problèmes, ses fragilités en supprimant des groupes d'opposition. Donc pour l'instant, le combat est politique. Si nécessaire, il sera plus que politique, mais nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire entendre la voix des communistes, mais aussi la voix des insoumis en Ile-de-France, parce que c'est important que la voix de l'opposition de gauche soit pluraliste, soit plurielle, et c'est aussi comme ça qu'on est plus fort.
Madame Malizet, en quelques mots, est-ce qu'on peut changer le règlement intérieur en cours de mandat? Est-ce qu'il ne faut pas attendre les prochaines élections? En quelques mots, s'il vous plaît.
Alors, c'est la 14e modification du règlement intérieur depuis 2015. Donc, Valérie Pécresse est une coutumière du fait. D'accord. D'échanger le seuil, c'est la première fois que c'est fait de cette manière-là et surtout que ça éliminerait des groupes politiques. Voilà, le seuil peut être changé, il a déjà été changé, mais ça n'avait aucune incidence sur l'organisation des groupes politiques, contrairement à ce qui est prévu ici. Voilà, et je pense que c'est une mauvaise, très mauvaise idée.
Bon, ça donne à réfléchir, 49-3, j'en passe les meilleurs, etc. etc. Enfin, Madame Malizet, je vous remercie. On va suivre
Merci
de près tout ce qui va se passer. Je rappelle, vous êtes présidente du groupe communiste, écologiste et citoyen, nos conseils régionaux d'Île-de-France. À très bientôt, merci.
Merci, très bonne journée, au revoir.
Merci. Et nous, on reviendra dans quelques petites secondes. Et revient au direct à passage à niveau. C'est dimanche 14 mai, quinzaine du commerce équitable. Ça y est, c'est parti hier. Ce sera jusqu'au 28 mai, organisé par Max La France et Marlango. Monsieur Desbordes, bonjour et merci d'être avec nous en direct.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, monsieur Blaise Desbordes, vous êtes directeur général de Max Avelard France. Alors, je vous dis félicitations parce que vous êtes en train de fêter 30 ans.
Tout à fait, 3 décennies de militantisme. Nous sommes une association indépendante qui essaye de promouvoir depuis 30 ans des conditions plus justes pour les producteurs pauvres. Il y en a des dizaines de millions qui nous nourrissent quotidiennement dans le café, les fruits exotiques, le cacao, le sucre de canne, et on les maltraite toujours autant aujourd'hui. Donc on a créé un label pour lutter contre ça.
Oui, effectivement, les multinationales, bon, je vais pas dire de nom, et ils ne méritent pas qu'on les nomme, mais enfin, oui, effectivement, il s'agit de plus de 3000 produits issus du commerce équitable, mine de rien.
Oui, tout à fait. En 30 ans, on a réussi à être présent maintenant dans les rayons, un peu, je dirais, pour tous les budgets, pour toutes les qualités, un peu pour tous les goûts. Et donc, c'est une très bonne nouvelle que cet anniversaire, ça soit aussi celui de l'accessibilité. Le commerce équitable, c'est pas pour les riches, c'est pas pour les classes moyennes ou c'est pas pour les pauvres, c'est pour tout le monde. Et il y a des produits que vous pouvez trouver aussi dans des supermarchés discount ou dans d'autres, dans des marques distributeurs ou dans des grandes marques. Effectivement, c'est des milliers aujourd'hui de produits sur ce petit logo bleu et qui peuvent permettre aux gens de choisir, de protéger les producteurs qui nous nourrissent.
Voilà, Fair Trade, Max Avelard. Alors, bon, on s'accompagne déjà depuis plusieurs années. Alors, quelque chose de très important, c'est y a un côté social, il y a un côté solidaire. Et ça, c'est très important parce que, c'est-à-dire, les producteurs, ils reçoivent le juste prix. Je ne sais pas si je peux utiliser cette expression de juste prix.
Mais oui, exactement. C'est ça qui est miraculeux, c'est qu'on réussit à faire un lien entre nous, les consommateurs, et des producteurs qui sont au bout du monde, et on ne sait pas qu'ils sont maltraités dans les négociations commerciales. On ne sait pas que le camion s'arrête, comme on dit, en borchant, et obtient que le paysan doit vendre à la période de soudure, par exemple, c'est son sac de café, son sac de fèves de cacao, pour des prix de misère. Et donc, notre ONG a créé un prix public obligatoire. Et si vous voulez avoir ce label bleu sur votre paquet de café ou votre tablette de chocolat, vous devez prouver que vous avez payé un prix minimum aux producteurs paysans, et que ce prix doit être rémunérateur, ça doit couvrir tous les coûts de production et lui permettre de vivre.
Oui, mais en même temps, je pense les travailleurs de ces fermes, pas seulement. Bon, il faut aussi qu'ils reçoivent un salaire correct aussi. Donc, il y a des conditions sociales aussi qu'il faut respecter.
Tout à fait. On a aussi une partie du cahier des charges. C'est vraiment plus de 100 pages très détaillées qu'il faut respecter, qui s'adressent aux travailleurs, à ceux qui sont salariés dans certaines exploitations. Et eux, on va vérifier les conditions sociales. Par exemple, le droit à un congé maternité. Vous avez des endroits ou des pays où quand vous êtes enceinte, on vous met dehors et on vous réembauche 2 ans après. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, nous, ça, c'est interdit par notre cahier des charges. On va aussi permettre que les travailleurs salariés aient un bonus. Donc, on va créer une cagnotte, en fait, pour chaque tonne que vous achetez, de bananes, par exemple. Vous allez devoir payer 10% de plus quand vous êtes une grosse acheteur, importateur de bananes. Et ces 10% vont aller dans une cagnotte. Et c'est ensemble que les travailleurs vont voter une fois par an pour décider à qui ils veulent et comment ils veulent utiliser cette cagnotte. Donc ça peut leur permettre de payer les bourses d'études pour les enfants, ça peut permettre de les équiper, par exemple, en petits fours à gaz beaucoup moins polluants et qui permettent de ne pas avoir des maladies pulmonaires, etc. Et j'en passe, l'utilisation de cette espèce de prime de développement communautaire est très large, et je peux vous dire que pour avoir été sur place souvent, c'est très impressionnant de voir ce comité des travailleurs qui décide librement, grâce au commerce équitable, d'investir dans ce qui lui tient à cœur.
Alors, il faut dire aussi que les prix sont garantis, et en règle générale, les prix de ce concept, le commerce équitable, les prix d'achat sont supérieurs à ce que les multinationales payent. Alors, quand on dit commerce équitable, on a tendance à penser, c'est beaucoup plus cher. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Et bien que, comme dirait l'autre, il vaut mieux manger moins, mais mieux. Et ça, c'est en même temps, c'est de la solidarité. Et on a des bons produits, ça aussi, il faut le dire.
Mais oui, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas forcément plus cher. Parce qu'en fait, dans un produit, quand vous avez une tablette de chocolat ou un très bon café torréfié, etc., il n'y a pas que le prix d'achat agricole, il y a tout le reste. Il y a le coût de l'énergie, le coût du transport, le coût des taxes, le coût de l'emballage, le coût du marketing. Parfois, vous avez d'autres ingrédients qui viennent, des arômes, du blé, etc., etc. Et donc, de payer un juste prix au producteur, par exemple, de cacao, lui, il représente que 5% du prix d'une tablette. Donc, si vous le payez bien, eh ben, vous allez peut-être représenter 8% du prix d'une tablette. Et ça ne veut pas dire que la tablette, elle va doubler, okay, du tout. Mmh. C'est pour ça qu'on a des chocolats populaires. On a plus de 2000 produits en France, notamment des tablettes tout à fait accessibles. Mais pour le prix de la fève est garanti aux producteurs.
Et d'ailleurs, moi, je me souviens d'un voyage que j'ai fait à Saint-Thomé, il y a un excellent cacao. Justement, les gens qui travaillaient, qui ramassaient les cabosses, justement, ils n'avaient jamais vu qu'est-ce que ça devenait leur travail, savoir une tablette de chocolat. Alors, je disais au début, quinzaine a démarré hier, se prolonge jusqu'au 28, donc c'est au niveau national. Et alors, une dernière question, monsieur Desbordes. Alors, quand on parle de commerce équitable, on pense toujours l'autre côté de l'Atlantique, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais en France aussi, vous travaillez avec des producteurs en France?
Mais tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des poches de pauvreté sont apparues au fil des années, également dans ce pays riche qui est la France. Certains producteurs de lait, de blé, n'arrivent pas à atteindre même pas 30% du SMIC. Et donc, on a décidé que notre expérience pouvait profiter à d'autres. Et on a utilisé les mêmes méthodes, le prix minimum, le cahier des charges, les contrôles sur place, etc., pour développer. Aujourd'hui, on a des petits yaourts, par exemple, on a des laits chocolatés, et on espère demain beaucoup plus de biscuits et autres. Le commerce équitable en France se développe. Hein, il y a beaucoup d'initiatives, il y a d'autres entreprises, d'autres labels, d'autres associations qui le développent beaucoup. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une sorte de réconciliation et d'universalisation de la justice pour les producteurs. Les paysans d'ici et de l'autre bout du monde ont beaucoup à se dire et beaucoup à partager. Et donc c'est bien que des consommateurs puissent, dans les rayons, voyez, se relier avec eux. Et faire un geste, que ce soit effectivement des paysans français ou des paysans africains, mexicains ou thaïlandais.
Voilà, comme dirait l'autre, soyons consommateurs citoyens et solidaires.
Absolument.
Voilà, monsieur Blaise Desbordes, merci. Je rappelle, vous êtes directeur général de Max Avoir France, donc à nos auditeurs. Bon, ça va se prolonger, je rappelle, jusqu'au 28 mai. Et pour ceux qui ne connaissent pas, goûtez un petit peu les produits et vous allez voir. Et c'est par rapport à l'inflation, plus de presque 50% des consommateurs font toujours confiance aux produits équitables.
Tout à fait.
Merci, monsieur Desbordes. Merci.
Bonne journée.
À très
merci
bientôt.
À vous. Au revoir.
Au revoir. Direct de passage à niveau, c'est dimanche 14 mai, émission, je rappelle, avec rediffusion dans les nuits du mercredi au jeudi à partir de 0h, sans oublier le podcast. On part dans l'Auvergne, plus exactement Clermont-Ferrand et aux alentours, au sujet de l'étude des migrations, le creuset Colère-Montois du 19e au 21e siècle, et des études réunies présentées par Karine Rance, Michel Streit et Jean-Philippe Louis, publication des Maisons des sciences de l'homme de l'Université de Clermont. Clermont-Ferrand. Madame Rance, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Merci. Alors, vous êtes historienne, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Clermont-Ferrand. Je pourrais continuer comme ça. Alors, cette étude, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on revient dans le passé, on revient près de deux siècles en arrière. Et en même temps, quand on passe à Clermont-Ferrand et aux alentours, on dit, tiens, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Justement, comme dirait l'autre, alors, est-ce que je peux dire que cet ouvrage, c'est un regard dans le passé pour mieux comprendre la réalité du présent et ce qui est devenu Clermont-Ferrand à tous les points de vue?
Oui, tout à fait. Hein. Notre objectif, c'était de montrer que Clermont-Ferrand était un creuset de population, un creuset qui s'ignore souvent, Comme Gérard Noiriel l'avait montré dans les années 1980 pour l'ensemble de la France, par creuset de population, on entend des apports successifs de populations qui s'enrichissent mutuellement. Et c'est de cette manière-là que Clermont-Ferrand elle-même s'est construite. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1911, 2 Clermontois sur 3 n'étaient pas nés à Clermont-Ferrand. Et cet apport assez brutal de population, en particulier du tournant du 19e et 20e siècle, a profondément modifié le paysage urbain de la ville, puisqu'il a fallu construire des logements.
Oui, parce que bon, là, on tient compte justement des paysans auvergnats, des réfugiés, prisonniers de guerre, ouvriers d'Europe et d'Afrique, étudiants et sportifs des pays asiatiques. Donc, il y a eu toute une succession, c'est des couches, mais je pense que ces couches-là, bon, elles se sont retrouvées, elles se sont peut-être mêlées, justement, également avec la communauté portugaise. On a déjà avec nous Madame Reims, l'historien portugais Vitor Pereira. Bonjour, Vitor.
Bonjour.
Merci d'être direct avec nous. Nos auditeurs vous connaissent déjà. Alors, on parlait justement de cette couche successive, d'étrangers qui arrivent justement à Clermont-Ferrand et région. Alors, ce qui concerne les Portugais, on peut dire que c'est à partir des années 20, là, je parle de 1920, par là, Vitor Pereira.
Tout à fait. La première venue de Portugais en France, avec un peu d'importance, c'est la Première Guerre mondiale, c'est l'accord de main-d'œuvre entre la France et le Portugal dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et donc qui est signé en 1916. Et dès 1916, il y a des Portugais qui viennent dans le Massif central, notamment à Moulins, parce qu'à Moulins, il y a des usines de guerre, avec notamment un entrepreneur français qui a déjà des contacts au Portugal, car il a construit des chemins de fer au Portugal, qui s'appelle François Mercier. Et à partir de la fin des années 10 et début des années 20, commence l'arrivée de Portugais dans le Puy-de-Dôme, et pas seulement à Clermont-Ferrand, mais aussi à Volvic, à Saint-Georges-les-Ancises, et dans des petites villes, notamment autour de la mine et autour des métiers du bâtiment.
Alors, Madame Karine Reims, je vais à la page 51 du livre. Alors, le titre, c'est un texte à vous. Un rêve européen, entre guillemets, point d'interrogation, Clermont-Ferrand et l'hospitalité dès la première moitié du 19e siècle. On revient en arrière, peut-être une petite explication?
Oui, il y a eu à ce moment-là des réfugiés politiques qui sont arrivés en assez grand nombre à Clermont-Ferrand, de la même manière qu'il y en avait dans l'ensemble de la France. Mais la politique de la France à ce moment-là, donc on est sous la Restauration au début du XIXe siècle, et la politique de la France est d'éloigner les réfugiés politiques de leurs frontières. Et comme on avait à la fois en France à ce moment-là des Polonais, donc ils arrivent dans les années, après l'échec de leur révolution en 1830, des Italiens qui sont arrivés dans les années 1820, des Espagnols, là sur toute la première moitié du 19e siècle, toutes ces populations étaient à Clermont-Ferrand éloignées de leurs frontières, donc on retrouve les trois groupes. Les Polonais ont fait souche, généralement. Donc il y a des familles qui portent des noms polonais qui peuvent venir de cette vague d'immigration là, qui peuvent venir aussi d'immigration, enfin de flux de travailleurs de la fin du 19e siècle. On a les deux situations. Les Espagnols et les Italiens réfugiés politiques de ces années-là sont rarement restés. Certains ont demandé
la nationalité française.
Oui, certains ont demandé la nationalité française et sont restés, se sont implantés également.
Alors, si on peut avancer un petit peu, ça concerne les immigrations d'Afrique. Est-ce que ça a à voir avec les anciennes colonies françaises? Je pense à l'Algérie, je pense à Tunisie, et le...
Oui. Alors, un petit peu comme les Portugais, les premiers flux sont observés pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des travailleurs, mais ceux-là sont des travailleurs coloniaux. Et en fait, on ne sait pas exactement combien ils sont. C'est des populations qui ne sont pas considérées comme étrangères à ce moment-là et qui ont été renvoyées dès la fin de la guerre dans leur pays d'origine. Et effectivement, ce sont surtout des personnes issues du Maghreb, des hommes.
Voilà.
Effectivement. Et puis ensuite, il continue à. Enfin, d'autres personnes arrivent sous la forme de migration de Moria, donc avec un renouvellement très régulier. Dans les années 20, 30, mais c'est de la même manière que pour les Portugais, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que ces populations viennent en plus grand nombre.
Voilà, tout à fait. Alors, on arrive tout doucement. Alors, Victor Pereira, on connaissait les Auvergnats de Paris. Bon, apparemment, il y a les Portugais d'Auvergne. Mais il y a quelque chose, bon, je sais pas si ça correspond à un mythe, apparemment, c'est pas une réalité. Ça s'agit des Portauvergnats. Alors, exactement, est-ce que ça a existé, ces Portauvergnats ou pas?
Effectivement, très rapidement, dans les années 60, quand il y a la vague massive de Portugais qui arrive en France, et notamment assez, de façon assez précoce dans le Puy-de-Dôme, naît cette idée qu'en fait, les Portugais, il faut les inciter à venir en France, et notamment en Auvergne, parce qu'en fait, ils ont toutes les qualités de l'Auvergnat, c'est-à-dire dur au travail, qui économise, qui est des vertus familiales, entre guillemets, qui ne fait pas vraiment de politique. Et donc, très très rapidement, il y a un discours qui assimile les Portugais des années 60 à l'Auvergnat des décennies passées. Et avec aussi cette idée que comme ils sont proches, ils ont un ensemble de caractéristiques proches, notamment culturelles et comme vous l'avez dit, de comportement, ils peuvent s'amalgamer derrière ce concept de Portauvergnat. Évidemment que ce type d'idée est toujours critiquable dans un sens, parce que ça oublie le fait que beaucoup de Portugais, une fois la retraite venue, même avant rentrer au Portugal, ça a tendance à nier ou à retirer le fait qu'ils conservent beaucoup de pratiques culturelles, religieuses, qui sont plus rattachées à leur pays d'origine, voire à leur village d'origine, qu'à l'Auvergne. Mais c'est un de ces concepts qui est souvent mis en avant pour mettre en avant une bonne intégration des Portugais. Et là, en l'occurrence, au-delà de la France, c'est vraiment de l'Auvergne, avec aussi cette idée qu'on évoquera peut-être un peu plus tard, c'est aussi le fait que des Portugais, dès les années 70, restaurent des maisons dans des villages abandonnés autour de la grande couronne de Clermont-Ferrand, la plus connue étant Roche-Blanche, et donc font renaître des villages et s'inscrivent dans cet horizon d'une Auvergne à la fois marquée par l'industrialisation autour de Clermont-Ferrand, mais aussi par l'agriculture et notamment le travail de la vigne qui a disparu.
Voilà. D'ailleurs, il y a des problèmes parce que dans ces villages, dans quelques villages, on a même mis le drapeau portugais. Bon, c'est une autre histoire. Alors, incontournable avec l'histoire de Clermont-Ferrand, il s'agit de Michelin. Alors, Michelin, il avait la particularité, à un moment donné, je me semble que c'était en 1972, je crois, et ils avaient quelque chose comme 2500 ouvriers portugais. Alors, je vais revenir un petit peu, peut-être en arrière, parce que ça, je vais citer quelqu'un qui, justement, qui parlait des l'effet d'avoir des portugais, hein, dont ça date, je pense, dans la fin des années 40, justement, pendant les grandes grèves dès 48, alors, à quelqu'un qui a dit, les ressortissants portugais ont fait preuve de calme et sont demeurés neutres. Donc, à savoir, l'entreprise est même veillée à éviter de recruter tout travailleur qui pourrait avoir une activité syndicale et au contestataire, ni plus ni moins. Bon, ça, même à la fin des années 50, Madame Reims, bon, ça donne à réfléchir quelles étaient les méthodes de chez Michelin à l'époque, non?
Oui. Ben, je crois que Victor Pereira en parle dans son article, d'ailleurs, oui, c'est qu'il y avait une sélection des ouvriers portugais dès l'origine, avec l'objectif de recruter les personnes les moins politisées possibles, ce qui était un échec, comme Victor vient de le rappeler là. Alors, c'est vrai que Michelin a eu une politique, s'est implanté déjà en Auvergne parce qu'il y avait une main-d'œuvre disponible. Michelin a été créé en 1889 et peu de temps après, c'est la crise viticole et donc il y avait cette main-d'œuvre qui était disponible et qui était réputée avoir les qualités qu'a rappelé Victor Pereira tout à l'heure. Donc c'est comme ça que l'entreprise s'est développée, essentiellement en recrutant au départ une population rurale et puis ensuite en étendant le recrutement à un bassin d'emploi européen puis extra-européen. Mais effectivement, on note, alors ça je crois que c'est Thomas Zanetti dans son article, qui notait qu'en 1920, au moment de la première grève de Michelin, les étrangers, donc à ce moment-là c'était plutôt des Espagnols et des Italiens, les étrangers ont été les premières victimes finalement de la... à parler d'une répression, mais pratiquement, en tout cas, de ceux qui ont été condamnés par la suite, et ils ont été renvoyés dans leur pays respectif. Il y avait une politique de ce côté-là qui était assez discriminatoire, politique discriminatoire qu'on trouve sur le plan politique, on trouve également sur le plan des logements, avec en fonction des nationalités, des logements qui étaient plus ou moins centraux, plus ou moins périphériques. Notamment pour les travailleurs célibataires, et là ça concernait plutôt les travailleurs du Maghreb, mais aussi quelques Portugais parfois, les travailleurs célibataires étaient situés, étaient, enfin, on leur proposait des logements, puisque Michelin logeait ses travailleurs souvent. Donc là, on leur proposait des logements dans des foyers qui étaient entre les deux villes, de Clermont et de Montferrand, dans une zone où il n'y avait pas toutes les, tous les commerces, etc., qu'on peut trouver dans les zones plus centrales. Effectivement, il y avait une politique qui était à la fois une politique d'accueil, de fidélisation de la population en favorisant l'ouverture d'écoles, de crèches, etc., fidéliser les populations qui avaient été recrutées, mais ensuite de tri et de renvoi de ceux qui ne répondaient pas aux critères. Voilà.
Hein,
voilà.
Ouais, d'ailleurs, pendant les grèves de 1948, dans des séries, bon, la localisation exacte, je ne me souviens plus, les ouvriers qui avaient fait grève avaient été licenciés, sauf les Portugais. Mais à propos justement des Portugais et de Michelin, Victor Pereira, vous citez, bon, c'est Jacques Barrault, hein, je lis, Michelin privilégie les Portugais car ces derniers partageaient un certain nombre des valeurs de la culture Michelin, dureté à la peine, forte conviction catholique, sens la famille et discipline, ni plus ni moins.
Oui, c'est ça, Jacques Barrault qui a beaucoup étudié l'immigration dans le Cuba, mais notamment les Portugais, mais cela en avant. Et Michelin va devenir un des grands employeurs des années 60, et notamment ça va être renforcé par l'effet mai 68 et des différents mouvements de ces années 68, où Michelin se rend compte qu'il a déjà sur place une population portugaise qui travaille notamment dans le bâtiment et qu'ils vont recruter et ensuite de fil en aiguille par des les réseaux familiaux ou les réseaux villageois vont recruter au Portugal, notamment au nord, à Braga et Guimarães, donc dans le Minho principalement, d'autres Portugais. Et une des qualités qu'on leur confère, c'est le fait de se maintenir à la marge des syndicats, et donc les notes des renseignements généraux qu'on peut retrouver divers et variés souvent se félicitent du fait que très peu de Portugais sont syndiqués et que la plupart d'entre eux ne font pas partie des mouvements grévistes et se réjouissent notamment de la présence, peut-être qu'on l'évoquera ensuite, d'une mission catholique portugaise à Clermont-Ferrand qui a ses premières dans ses différentes dimensions et qui permet de manière une grande partie de la population portugaise hors de la sphère syndicale et politique. Et quand il y a quelques éléments qui sortent un peu de... qui se font remarquer, ils sont assez vite surveillés et parfois même les entreprises, comme Karine Rose vient de le dire, les mettent à la porte et pour inciter leurs camarades à ne pas reproduire la même chose.
Alors, justement, Victor Pereira, je pense que fait sa allusion à quelqu'un, un curé portugais. Et c'est lui qui a créé le premier journal portugais en France. Il s'agit de Émigrante, et ça, c'est 1962.
Tout à fait, c'est le premier journal. Après, il y a eu quelques journaux très peu dans les années 30, notamment avec le cadre de l'exil politique portugais, des personnalités comme Marcos Costa, mais dans cette nouvelle vague migratoire qui commençait à la fin des 50, le premier journal portugais écrit par la personne portugaise, c'est ce journal de Clermont-Ferrand, donc Émigrante, qui un peu quelques années plus tard va devenir ou Immigrante, qui c'est significatif, le changement de nom. Et donc c'est un curé qui vient du nord du Portugal, vient de Castel. C'est sûrement pas anodin parce que la plupart des Portugais du Puy-de-Dôme viennent également d'Oumigne, et qui va publier ce journal et qui va aussi avoir une action non seulement ecclésiastique, journalistique, mais aussi il va créer les premières écoles, les premières classes, on les appelle les écoles à l'époque, de Portugais pour les enfants de Portugais, et notamment les enfants qui dont les parents ont travaillé à Michelin, avec cette idée qu'il faut que les enfants des immigrés connaissent la langue de leurs parents, et aussi avec cette idée d'un éventuel retour. Et donc il faut permettre que les enfants puissent retrouver, accompagner leurs parents quand ils retourneront au Portugal. Et donc, notamment, les premiers examens de la quarta classe, donc cet examen qui sanctionne la fin de l'école primaire, sont organisés à Clermont-Ferrand.
Oui, parce que d'ailleurs la première, la plus ancienne, bon, ça c'est autre chose, c'est la plus ancienne association portugaise a été fondée en 1954. Donc bon, ça donne à réfléchir. Donc il y a plein de choses, on n'invente rien aujourd'hui, Victor Pereira. Madame Karine Reims, alors dans ce livre, bon, on a fait que feuilleter encore. Finalement, disons, il y a un certain nombre de récits de vie. À partir desquels, bon, on parle quoi, on se trouve confronté avec des difficultés, mais également des réussites, et ça autour de tout un tas de thématiques. Bon, j'ai survolé l'histoire du sport, mais donc c'est sont tous les aspects de la vie qui sont d'une certaine façon retracés dans cet ouvrage, non?
On a essayé de faire appel à des spécialistes de questions assez diverses. C'est pas un ouvrage qui offre un panorama complet, mais effectivement, on a touché à différents aspects de la question, jusqu'à l'ASM, comme vous le dites, effectivement, l'association sportive qui était initialement de Michelin et puis finalement maintenant montferrandaise, pour le rugby particulièrement. Et puis, on a aussi privilégié des approches diverses. Donc, on a un premier volet du livre qui est plus historique, puis un deuxième volet du livre qui porte plus sur la situation actuelle, où là, on a des collègues qui travaillent sur la communication, qui travaillent sur différents aspects, qui permettent en effet d'avoir aussi un aperçu de la situation aujourd'hui, avec une population étrangère qui a beaucoup changé de profil aussi, particulièrement avec la fermeture des usines de Michelin. Le licenciement de la plupart des ouvriers et par contre le fait que Michelin ait privilégié sur Clermont-Ferrand à la fois le siège social et le centre de recherche à l'ADOU en faisant appel à de plus en plus d'étrangers. On est passé depuis les années 2000 de quelque chose comme 200 étrangers à près de 1000 étrangers. Mais là ce sont des cadres, c'est plus du tout le même profil que la population ouvrière qui a été intégré il y a plusieurs décennies.
Oui, bon, on pourrait encore parler des étudiants chinois, les Allemands en Auvergne, etc. Ouais. etc. Mais il y a quelque chose, ça sera ma dernière question. Il s'agit du rôle de l'université Clermont Auvergne dans l'intégration des réfugiés. Alors, c'est le cas du projet CoLab. Peut-être, Madame Reims.
D'accord. Alors ça, c'était un projet qui a été mis en œuvre de octobre 2018 à avril 2019, et ça concernait cinq réfugiés politiques qui avaient été choisis, sélectionnés pour leur expertise dans chacun dans leur domaine. Et ce projet, ça a été inclus dans un projet plus vaste, en fait, européen. Il y avait cinq universités qui étaient concernées, deux en Belgique, une au Royaume-Uni, une en Italie, et puis donc l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, pour la France. Donc ça répondait à un rapport du Conseil de l'Europe qui, depuis la crise des migrants en 2015, avait noté la prévalence de préjugés contre les réfugiés et une hostilité croissante même. Proposé par ce projet CoLab, donc ces collaborations et laboratoires en même temps. Donc l'idée, c'était de montrer que les réfugiés avaient aussi des choses à apporter. Donc on leur venait en aide, mais en même temps, il y avait une forme de médiatisation et également des contacts avec les étudiants qui étaient destinés à améliorer cette situation. Alors maintenant, on peut considérer que 5 personnes à l'échelle de l'UCA, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais c'est vrai qu'il y avait médiatisation, et puis il existe d'autres projets à l'échelle nationale ou européenne, comme le projet POSE, qui accueille aussi, et là dans toute la France, dans toutes les universités, des artistes ou des chercheurs qui sont des réfugiés politiques. Ça, on a actuellement à l'UCA des Ukrainiens comme ça qui ont pu être accueillis.
Des échanges, oui. Alors, Madame Karine Reims, merci. Merci également Victor Pereira. Je rappelle l'ouvrage Migration, le creuset clermontois du 19e au 21e siècle. Maison des sciences de l'homme et de l'université Clermont-Ferrand. Merci. Et quitte à faire, bon, parler d'un film documentaire de José Vieira, Chronique de la renaissance d'un village. Je pense que là, on va être plein dedans dans tout ce qu'on vient d'aborder maintenant. Merci. Bon travail. Et on attend de vos nouvelles.
Merci à vous.
Merci. Et non, je vais en terminer le temps où je m'y touche.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo 14 de maio, lembro a emissão com a difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E agora vamos até Portugal, ainda que estou a pensar já bem em Portugal, no Alentejo, mas enfim, para melhor regressarmos aqui à região presidencial. Isto a propósito da peça de teatro do espetáculo de Ordio, Uma Vida de Cor, de Ordio, Une Vie de Couleur, que a peça vai ser igualmente legendada em francês. Nhanhanhã. O autor, igualmente aquele que é o responsável da encenação, Pedro Estorninho, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Bom dia Rádio Alfa, bom dia Artur e bom dia Paris.
Ora, este espetáculo é apresentado pelo Teatro Ensaio. Bom, não é nada evidente, tenho a impressão que vocês têm um jogo de palavras, mas vale a pena talvez vir um bocadinho à gênese da criação desta companhia, não?
Sim. O Teatro Ensaio, exatamente, que é uma filosofia nossa, é um teatro que parte da construção de espetáculos a partir da palavra, porque para nós o teatro começa na literatura. Nunca descurando outras formas de criação, outros formatos de criação. Mas o Teatro Ensaio, como disse, é uma companhia da cidade do Porto, que faz 15 anos este ano, celebra o seu 15º aniversário, é uma companhia apoiada pela Direção-Geral das Artes, Ministério da Cultura, e é uma companhia que tem ação cultural, digamos assim, em três zonas, três regiões do país. Uhum. Ou seja, à norte, na cidade do Porto e todo o norte, incluindo Trás-os-Montes, no centro, na zona da Guarda, que são nossos parceiros já há longos anos, o Teatro Municipal da Guarda e mesmo outras vilas e pequenas aldeias no Conselho da Guarda, e temos uma residência artística desde 2016 com a Câmara Municipal de Arraiolos, neste Alentejo profundo e quente neste momento.
Ora, Pedro Estaninho, não é por acaso que hoje, precisamente, termina uma exposição que é dedicada a Dório Gomes na Casa de Portugal, na residência André de Gouveia. É uma coisa de maneira que vocês vão continuar o olé, vão fazer o olé, como dizem os franceses. Mas como é que nasceu a ideia de fazer esta peça sobre Dório Gomes? Eu digo bem Dório porque há muita gente que chama Dório, mas não é, não tem assim, pois não.
Não. Aliás, aqui em Arraiolos, onde eu estou neste momento, e em todo o Alentejo, é Dordio.
Dordio
Gomes. Dordio. Dordio faz o nosso percurso. Nós do Porto vimos para Arraiolos trabalhar, temos uma parceria com a Câmara, como já disse, e Dordio nasce em Arraiolos. Dordio nasce em Arraiolos e acaba a sua vida na cidade do Porto. Em Belas Artes, como professor de Belas Artes na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Para meio deste percurso, estamos a falar de alguns anos, claro, não é? Ele nasce em 1890, no dia 26 de julho, e aos 12 anos vai para Belas Artes em Lisboa. Ele entra em Belas Artes em Lisboa somente com 12 anos, em 1902. Em 1910 ganha o prémio Valmor. Uhum. E recebe uma bolsa que o leva aí para Paris.
E fica aqui dois anos, até 1911, salvo eu.
Exatamente. Uhum. E depois regressa mais tarde. Regressa mais tarde novamente a Paris, onde estuda na Academia Julian, que era a grande escola que fazia versos à Belas Artes em Paris, uhum. que era a Academia do pintor Rodolphe Julian. Por sinal, onde estudaram também o Marcel Duchamp,
o Van Gogh, o Matisse.
Exatamente, o Diego Rivera. O Diego Rivera. E é Paris que muda todo o conceito de trabalho do Dordio, que para nós e para muita gente também será um dos maiores modernistas, um dos maiores pintores modernistas portugueses, a par do Amadeu Sousa e outros tantos, não é?
Ora, precisamente, então, a peça de teatro, talvez explicar aos nossos ouvintes o que é que eles vão descobrir. Ora, a peça vai ser representada nos dias 19 e 20 de maio, não o disse, peço desculpa, tanto na Maison de Portugal, André de Gouveia, os nossos ouvintes sabem onde é que fica, Cité Internationale, no Cité de Paris, 7 Boulevard Jourdan. Marca, vamos quê? Vamos acompanhar Dório Gomes, a vida dele, os périplos dele?
Sim, vamos fazer uma viagem com ele. Principalmente vamos fazer uma viagem com ele. E como é que era possível fazermos uma viagem com ele? Há uma jornalista que tem um sonho, depois de ter vindo a Arraiolos, há uma jornalista que vê os grandes painéis de Dordio, depois de ele ter saído de Paris, pinta os grandes painéis, muito inspirado por Cézanne. Cézanne foi um mestre que ele seguiu, apesar de ter tido professores como Veloso Salgado, Luciano Freire, mas ele próprio diz, Columbano para mim foi o meu primeiro mestre, mas se eu tivesse gostado só de Columbano não passava de um naturalista. Cézanne mudou a vida de Dordio. E então a jornalista fica entusiasmada com o trabalho dos grandes painéis que estão na Câmara Municipal de Arraiolos e tem um sonho, porque não falar com Dordio? E acontece, que porque no teatro tudo é possível, estamos no século XXI, tudo é possível no século XXI, porque não a jornalista poder falar com Dordio? E é esse o conceito do espetáculo. Uhum. Temos música ao vivo, temos música original, criada por Eduardo Baltar Soares, que já atuou algumas vezes aí em Paris e que nos acompanha já há alguns anos ao Teatro Ensaio, e temos a oportunidade de tê-lo ao vivo a tocar as peças musicais inspiradas neste, como disse, calmo, profundo e quente Alentejo.
É verdade. Bom, a referir que temos três atores no palco: Inês Leite, Joana Canoa e Paulo Monteiro. De maneira que o espetáculo vai ser em português com legendas em francês. Como é que as coisas vão ocorrer?
O espetáculo tem vídeo, tem algum trabalho de vídeo realizado pelo Hugo, o Hugo Moutinho, que já trabalha connosco também há algum tempo, e achamos que se colocámos na mesa a hipótese de o fazermos em língua francesa, mas penso que a relação da fonética e a relação do conhecimento da outra língua, não é? Porque talvez seja uma das maiores criações da humanidade, foi a linguagem, porque é a linguagem que nos permite estar aqui os dois a falar, mesmo à distância, e é a linguagem que nos permite quebrar muros e criar pontes. Porque não ouvir a sonoridade do português, a musicalidade do português, e as pessoas, claro, terem o acesso ao texto e poderem lê-lo em francês.
Ora, a Cafreiro, bom, agora estou pensando na grande exposição que ocorreu aqui em França, no Grand Palais, à volta de Amadeu Sousa Cardoso. Finalmente há um certo número de pintores portugueses que marcaram a sua época, mesmo no estrangeiro, e tem a impressão que Portugal não lhes dá o devido valor. Será que o Dordio Gomes é reconhecido em Portugal, dão-lhe o devido valor, ou é como diz outra, a prata da casa do São Bernardo?
Pois, Dordio, sim. É bom lembrar que durante algum tempo da história portuguesa, até os artistas eram escolhidos pelo Estado, não é? Penso que Dordio não foi um dos escolhidos. Sendo que Dordio fez um trabalho fenomenal, não só de criação, mas também de pedagogia. Foi professor do Júlio Pomar, foi professor do Júlio Rezende, foi professor do Manuel Guimarães, do Fernando Lenhas e por aí fora. Todos estes grandes pintores passaram pelas aulas do Dordio, do Dordio Gomes. Agora sim, Dordio vem ao de cima, começa-se a falar, começa-se a apreciar a obra de Dordio, e penso que seria um encontro falhado com a história se não falássemos dele.
E a importância do Alentejo na vida do Dordio? Porque, bom, ser alentejano é um ser à parte, mas no bom sentido do termo, Pedro Estorninho, entendamos-nos. Porque a minha cantina em Lisboa era a casa do Alentejo, onde fica tudo explicado. Mas qual é precisamente o lugar que ele tem no Alentejo, porque é representativo também, e muitas vezes apresentava-se o Alentejo como se fosse uma espécie de deserto, mas longe disso, a nível cultural, há muita riqueza no Alentejo também.
Claro, claro. Bem, à parte de ser a terra uterina, não é, de Dordio, Dordio consegue reinventar, digamos assim, o Alentejo para si. Consegue um novo olhar. Há uma palavra que é o oxímoro, não é? O oxímoro que é muito importante. E neste caso, Dordio vem ao Alentejo, volta a referir que Cézanne foi importante para ele, e volta a reinventar na tela o seu Alentejo. Um Alentejo que ele não consegue, obviamente, tirar do coração, digamos assim, não é? E, aliás, ele diz numa entrevista nos últimos anos de vida que o grande trabalho dele foi pintar sempre o mesmo sobreiro até conseguir que ficasse bem. E, claro, ele diz que não conseguiu, não é? Portanto, é o grande trabalho dele. Mas era um homem do mundo. E só podemos ser pessoas do mundo se soubermos de onde viemos, o que amamos, de onde somos, não é? Sem ter medo de perder isso.
Mas é verdade que na pintura dele, bom, sentia-se as suas raízes, o mundo rural, os cavalos e por aí fora. Sentia-se isso, precisamente, no trabalho dele?
Sim. É parte do trabalho dele, não é? Porque um dos grandes trabalhos do Dordio foi as Casas Malakoff. É um trabalho conhecidíssimo. Aí mesmo, em França, é um trabalho conhecidíssimo. Mas, obviamente, que ele tem até na cor, tem o Alentejo nas suas telas, claro.
Ora, a cor, é isso que nós vamos ver, cores no palco, na cidade universitária, na mesma de Portugal, dias 19 e 20. A questão do horário está marcada para as 16 horas para estes dias.
16 e 30.
Significa que, bom, para o dia 20 não pode haver muitos problemas, mas para o dia 19 vocês referiram isso, porque penso, bom, estão a trabalhar com a Casa de Portugal, de maneira que é uma boa... Bom, isso, quando se fala de cidade universitária, nacionalidades não faltam para dar a descobrir o vosso trabalho, da vossa companhia, mas igualmente do Ordeio.
Sim. Aliás, sexta-feira apontámos até para as pessoas da CT, não é? Da própria cidade universitária, porque sabemos que sábado poderá ser até complicado, até por telefonemas e contactos que nos têm chegado, e queremos ir ver, temos que ir ver isso, temos que não sei o quê. E acho que, estando na CT, estando naquele auditório que... conheci tão bem, e agora estive há pouco tempo a visitá-lo por questões técnicas e tudo. Acho que um espetáculo, não é, obviamente, para a cidade universitária, mas um espetáculo que as pessoas da cidade universitária possam ir na sexta-feira, achámos o ideal que fosse assim, não é?
Vamos fazer uma descoberta, Pedro Estorninho. Obrigadíssimo, não sei o que é que poderíamos acrescentar, mas de qualquer maneira, viva a cultura. Há sim uma última pergunta. Será que os atores, os encenadores, os autores de teatro conseguem viver em Portugal devidamente? São devidamente renumerados, são devidamente considerados ou não?
Considerado é uma coisa, remunerado é outra. Isso é um pau de dois bicos. Mas se eu soubesse a resposta a essa pergunta, estava rico. Mas não sei. Penso que as coisas mudaram um bocadinho nos últimos anos, mas é um trabalho sempre moroso e constante, até pelo como o mundo está a viver, as consequências da rapidez, não é? Nós estamos num mundo que se quer rápido e não pensante. E isso afeta a cultura, obviamente.
Mas quando se fala teatro, aí temos o calor humano. É completamente diferente, de maneira que estamos longe a mil léguas das chamadas redes sociais, faz com que cada um esteja no seu cantinho, não é?
Sim, olha, o teatro, é como digo, há uns tempos estava em conversa com um colega que não é de teatro, mas está numa outra área artística, que me falava do cinema 3D, e disse, olha, nós no teatro andamos há 3 mil anos a fazer a 3D, e in loco, ali, à frente de todos. Portanto, andamos ali a 3D, com som direto, tudo ali. Portanto, não temos problema com a questão do 3D. Estamos ali em direto. Mas o teatro só funciona porque há uma assembleia. Se não for uma assembleia e uma festa, não é, não é teatro. O teatro tem que ser uma assembleia e uma festa.
Teatro é vida.
É.
A vida real e não, enfim... Pedro Estorninho, obrigadíssimo. Lembro do Ordeio Uma Vida de Cor, do Ordeio Une Vie de Couleur, vai ser dos dias 19 e 20 de maio, na Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Internacional de Paris, 7 Boulevard Jourdan, em Paris 14. Obrigado e boa viagem, porque penso que vocês não vão tardar aqui, pois não?
Eu não percebi, desculpa.
Vocês não vão tardar a chegar aqui.
Não, chegamos dia 17.
Dia 17.
Temos montagem, ensaios e então estamos a preparar tudo para que as coisas corram pelo melhor.
Obrigadíssimo, Pedro Estorninho.
Obrigado.
Nos encontro então sexta-feira que vem. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. E de teatro, vamos falar de um teatro ainda que nada tem a ver, não é, é teatro, mas enfim, vou-vos explicar. Trata-se de Soalan, que os nossos ouvintes conhecem bem, que está em residência no Teatro Municipal de Brissiormade entre os dias 16 e 19 de maio e... No final da residência de 9 de maio haverá um concerto às 20 horas e 30 minutos. Quando se fala de Soalan, temos passado muitos sons de disco, mas agora aqui fica um extrato de um live com ele.
Oh Maria feia, feia Maria, aperta uma mão direita. Deus, oh prenda querida, oh Maria feia, feia Maria. Oh Maria feia, feia Maria. Oh Maria feia, feia Maria.
Thank you.
Voltamos ao direto, estamos em Raiolos, agora voltamos aqui para a região parisiense. Em residência, o Teatro Municipal de Bry-sur-Mal, d'Abordement 94, du 16 au 19 mai, concert de sortie de résidence le 19 mai à 20h30. On parle de qui? Solam, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Oui, bonjour Arthur.
Alors, j'ai réussi à piocher un son live de Maria Faye.
Oui,
c'est pas évident parce que bon, c'est ça que je disais à nos auditeurs, c'est que quand on diffuse une plage d'un disque, c'est une chose. Et l'avantage avec Soalam, c'est que quand on va au spectacle, lui dit mais il chante pas pareil, pas la même orchestration, pareil que le disque. Donc c'est, ouais, c'est la magie de du spectacle, de la scène.
Vivant, voilà, du spectacle vivant. Bon, je rassure les auditeurs, le son en live, il est meilleur.
Il est meilleur que ça, si je sais. Ça, c'était bon, ça y était. Après, capté comme ça, bon.
Oui, non, mais c'est oui, effectivement, c'est la magie, tu dis, du spectacle vivant. Alors, d'abord, moi, j'aime être en évolution. J'aime bien refaire les mêmes choses, mais j'aime bien aussi ne pas m'ennuyer. Et j'aime bien aussi m'écouter, écouter l'instant présent qui surgit, la page blanche, et cette ici et maintenant qui m'amène vers faire parfois des interprétations différentes des mêmes chansons, parce que je le sens comme ça, et mes musiciens aussi, et c'est d'un commun accord. On travaille ensemble des arrangements.
Voilà, alors ton dernier travail, le titre Sous, tout simplement, hein. Sous. Alors en français, sous, ça veut dire de l'argent. Bon, on va y revenir. À propos de l'argent, c'est les touristes, c'est les artistes arrivent à vivre de leur art. Bon, c'est une autre affaire. Alors, à quoi ça va concerner cette résidence de 3 jours au théâtre municipal de Bry-sur-Marne?
Donc c'est une résidence, effectivement. Alors d'abord, j'ai envie de rendre hommage à l'association Gaivota Fabo et à Marie-Josée Henrich, parce que cette résidence, elle fait suite au concert qu'elle m'a organisé dans ce même théâtre au mois de septembre dernier. Et la Virginie Pradal, la responsable de la culture de la ville, était présente au concert. Elle a été complètement charmée et elle m'a ouvert ses portes. Donc j'en ai profité pour effectivement lui faire cette demande de résidence. Et c'est donc un privilège de se poser dans un lieu très bien équipé, très confortable, et de pouvoir travailler d'une manière à ce que le spectacle ou le concert de fin de résidence puisse être avec des repères effectués sur le plateau, également avec les notions de sonorisation. Donc c'est à la fois travailler le son. Donc je vais venir avec mon ingénieur du son François Piron qui va donc travailler la question du son avec nous pendant 4 jours et au bout du compte faire en sorte que il y ait pas de surprises. Il y en a toujours des surprises. Tu as parlé de la magie du spectacle vivant. Dans l'aspect magique, il y a aussi l'aspect aléatoire qui fait que ça se passe pas toujours comme on veut, mais ça reste vivant et pour de vrai. Et avec des êtres vivants et avec les failles que ça peut présenter. Mais au-delà de ça, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir travailler la question du son, puisqu'on est un peu, dans notre ensemble, une petite usine à gaz. C'est-à-dire que les instrumentations qui sont à géométrie variable mélangent des instruments acoustiques avec des instruments électriques, des instruments qui sont très sonores avec des instruments qui sont très intimistes. Et il faut créer une patte sonore avec toutes ces dimensions qui doivent cohabiter et de manière harmonieuse. Et ça, c'est la magie aussi de l'ingénieur du son qui, lui, avec notre sensibilité, notre esthétique à nous, la mienne, réussit à produire un écrin qui fasse que tout le monde est dans le son de la chanson, le public et nous aussi. Après, on va faire une création lumière avec
Mathieu Lafay.
Voilà. Alors c'est avec Sébastien. Voilà, Mathieu, il est du côté du son, c'est donc Sébastien du côté de la lumière, et c'est Sébastien qui va nous faire la création lumière. Il nous a déjà fait quelque chose de très beau l'an dernier, et là on va travailler ensemble cette question-là, donc ça va être super. Et puis, évidemment, comme je disais, prendre des repères sur l'espace. Moi, j'entendais ce que tu disais dans la transition. Oui, c'est pas du théâtre, mon concert n'est pas du théâtre, mais il y a une dimension théâtrale et scénique importante, et prendre ses repères sur le plateau pour pouvoir être plus libre dans les mouvements et dans les aspects scénographiques. Oui, donc tout ça, c'est l'objet de cette résidence.
Alors, il faut dire que heureusement que tu as des bons compagnons, hein, avec toi sur scène. Alors, il faut les nommer.
Oui, tu as raison, oui. Mais alors, comment dirais-je, c'est vrai que c'est heureusement, et c'est, on va dire, la rencontre heureuse entre voilà, des personnes qui ont un grand savoir-faire, et puis mon projet, qui est un projet qui les a interpellés au début, et qui aujourd'hui, qu'ils défendent vraiment sérieusement, donc ça, j'en suis ravi. Patricio Lisboa, contrebasse, basse électrique Gembri, qui est une basse du Sahara, voilà, c'est une basse à deux cordes, ou trois cordes, je sais plus, du Sahara, et Guillaume Arbonville, batterie et percussion, Aurore,
Daniel,
merci, aide-moi.
Au violoncelle, Maxime Perrin, l'accordéon,
et au clavier.
Alors,
Florian Juillard, à la cornemuse et à la bombarde.
Bon, voilà. Là, on revient un petit peu chez toi, hein, dans tes origines, non?
Oui, c'est effectivement vraiment.
C'est un clin d'œil.
Oui, c'était pour moi évident que il fallait de la cornemuse, parce que évidemment c'est un clin d'œil, mais c'est une source aussi, c'est-à-dire que pour moi chanter des chansons milandaises, ça veut dire de temps en temps avoir cette sonorité qui nous ramène vraiment dans cette culture celtique qui trouve aussi ses racines, mais en tout cas son rayonnement dans cette région, pas seulement en Galice, mais aussi dans le nord-est de Trás-os-Montes et sur Planalto Mirandés, y compris évidemment en Espagne et toute la côte espagnole, mais c'était aussi pouvoir rendre quelque chose qui nous ramène dans une dimension musicale médiévale, ou en tout cas plus ancienne que aujourd'hui notre. Alors c'est aussi un peu le projet, l'objet de ce projet, c'est de faire de la musique métissée, parce que je trouve que la musique l'a toujours été, que aujourd'hui moi, à l'endroit où je me trouve, je ne peux pas faire autre chose que faire ce que demande la musique, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons et de régions diverses, qui se rencontrent, des cultures qui se rencontrent, et puis ça crée un métissage et une couleur musicale qui aujourd'hui, dans mon projet, ressemble à de la musique du monde, mais c'est notre patte à nous.
Voilà, tout à fait, parce que d'un côté on a José Afonso, de l'autre côté on a des musiques traditionnelles mirandaises. Donc voilà le lien, il y a un lien dans ton travail. J'aimerais bien comprendre exactement. Quand on demande à un peintre d'expliquer un tableau, il dit bon, écoutez, c'est à vous de comprendre ce que vous voulez. Mais pour les musiciens, c'est peut-être un peu plus facile, non?
Oui et non, c'est-à-dire que parfois il faut du temps pour comprendre ce que l'on fait soi-même, parce que comprendre, ça veut dire prendre avec soi, hein, en latin, hein, mais ce qu'on a déjà en soi, des fois on le comprend pas, parce qu'on vit avec sans même s'apercevoir qu'on l'a. Et moi je suis porteur de cette culture milandaise, en partie parce que je suis né ici, donc forcément je n'ai pas le même savoir, je n'ai pas la même imprégnation que quelqu'un qui serait né et qui aurait vécu là-bas, mais quand même je revendique aussi cette légitimité à avoir emmagasiné des traits de la culture milandaise, j'ai commencé ce projet à l'âge de 40 ans, et avec mes 40 ans, je sentais que c'était comme un retour aux sources, un retour à mon berceau familial d'origine, Après, le reste, moi je suis musicien, j'ai fait des études de guitare classique, j'ai côtoyé la musique classique pendant longtemps, et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon de ma vie, et j'ai travaillé le chant lyrique avec la voix de haute contre. Je suis particulièrement intéressé et sensible au répertoire baroque, Vivaldi, Handel, Purcell, etc. Je chante ça depuis longtemps, et aujourd'hui, ma voix commence à s'affirmer de ce côté-là, et souvent je parle rapidement de cette confrontation entre le profane et le sacré, qu'on y trouve ça dans mon spectacle. Ça peut être un concept, mais ça ne l'est pas. Moi, j'ai vécu cette confrontation entre le profane et le sacré à chaque expérience vécue sur le plan Alto Mirandés. J'ai vécu ça, j'ai vécu les fêtes religieuses et les fêtes profanes à côté, les masques et les processions, la dimension spirituelle et la dimension extravertie du carnaval. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui dans cette région, et c'est pas, je pense, le cas dans toutes les régions du monde. Il y a des endroits où la culture s'est un peu diluée ou perdue, et là, il y a cela. Alors moi, je suis, sans dire que je suis dépositaire de cette ce mariage, pour pas dire confrontation, en tout cas entre le profane et le sacré, je suis tout simplement dans le désir à la fois profond et à la fois fantasque de faire apparaître ça dans mon concert. C'est-à-dire, voilà, je chante le Sabbath Mater de Vivaldi, et puis après je chante Fra il Cornudo, parce que pour moi c'est la même histoire, même si ça peut sembler de l'extérieur, on se dit mais c'est un patchwork, mais non, c'est pas un patchwork, c'est le lien, c'est moi, c'est mon histoire qui fait le lien.
C'est la vie, tout simplement. Alors, Solem, concert le 19 mai à 20h30. Donc, je pense qu'on va profiter, les spectateurs qui sont là-bas, va pleinement profiter de votre travail, de la résidence pendant 3 jours, alors.
Bien sûr. Alors, il faut préciser que c'est un concert gratuit, parce que comme c'est une sortie de résidence, c'est un concert qui est offert par la ville aux habitants, mais évidemment à quiconque qui aurait envie d'y aller et réserverait en amont, forcément. Il faut aller sur le site du théâtre, le site de la ville de Brie, BRY sur Marne, 94, et sur le site de Brie-sur-Marne, il y a un onglet culture, et dans cet onglet, on va trouver le numéro de téléphone du théâtre, ainsi que le mail, et on peut réserver de cette manière-là.
Voilà, bon, à bon entendeur, salut.
J'espère encore avoir de l'oreille pour te répondre avec cœur. Je t'embrasse.
Allez, merci Arthur pour ton travail, à très bientôt.
Merci, bon dimanche. Merci. Au revoir.
Estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será. Será para ti
Então estamos na reta final de passagem a nível neste domingo, dia 14 de maio. Meus amigos, vamos até o norte de Portugal e com efeito. Está feito, está feito. Canto a Vozes de Mulheres já está inscrito na lista nacional do património cultural imaterial. Connosco para nos falar desta iniciativa. Já tínhamos falado na medida em que tinha sido feita a candidatura, agora realizou-se. Josefina Bolsas, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde Artur, boa tarde aos ouvintes da Rádio Alfa, boa tarde a quem mais nos estiver a ouvir.
Ora, três anos de luta, de labuta, é o caso de dizer, mas conseguiram atingir o objetivo.
Sim, sim, este passo tinha que ser atingido, esta etapa tinha que ser atingida e infelizmente chegamos lá. Leva o tempo necessário, levam as demandas que são exigidas, mas sim, conseguimos, conseguimos. Estamos lá.
Podemos dizer que Canta Vozes de Mulheres faz parte do nosso património e deverá ser reconhecido como tal?
Exatamente. Agora não há retorno. Já é. Já é um facto e portanto, acho que todos nos devemos regozijar e bater palmas. Quando digo bater palmas, é estarmos com esta conquista e fazer dela uma realidade, mas uma realidade que não esteja simplesmente guardada nos papéis, que esteja ativa, que esteja dinâmica, que esteja virada para a frente, por um lado, para mais passos que se possam dar, por outro, mantê-la viva e não arquivada, digamos assim.
Sim, não se trata de saudosismo, por conta, hoje essa palavra saudosismo faz lembrar a velha senhora, mas trata-se, por exemplo, de preservar uma tradição e perpetuar essa tradição, porque penso que vocês conseguiram isso, vocês aí, a Valdeneiva e não só, e mesmo até o centro, até sem esquecer o Oeiras, nos arredores de Lisboa, precisamente é que os jovens tenham acesso a isso e possam continuar a desenvolver este projeto, porque é bastante importante também para a posição e importância, vocês mulheres são fundamentais, mas relativamente ao Estatuto da Mulher, acho que o vosso projeto também tem a sua importância, não?
Sem dúvida nenhuma, o crédito a quem o tem, neste caso eram as mulheres que cantavam, é preciso que isso fique nos mais diversos e alguns até muito, muito importantes registros, que poderá vir a ser o caso da Unesco, que neste momento é o Património Cultural e Material Nacional, poderá vir, esperemos que a seu tempo venha a sê-lo também da Unesco, porque é merecido, é devido, é um estatuto que tem que nos ser dado, porque como dizemos às vezes, porque nós merecemos, mulheres merecemos, porque fomos nós sempre que trouxemos este canto acordado, desde os nossos avós até ao dia de hoje, e esperamos que daqui para a frente o seja igual.
Continuar. A Josefina Bolsas falou da Unesco. Ora, que quem está relativamente pertinho da Unesco é a Sofia Costa. Sofia Costa, muito boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Artur. Boa tarde, Josefina. Boa tarde a todos os ouvintes.
Ora, Sofia Costa, Presidente da Associação Encanto de Levallois-Perret, maneira como se diz de guardar, de perpetuar esta tradição, porque para além de uma tradição, é todo um trabalho que é realizado, de maneira que não estamos só a olhar para trás, pelo contrário, de maneira que é necessário também que este canto a vozes mulheres também seja aqui uma realidade em França. É isso que a Sofia Costa está a tentar fazer, é?
Exatamente, não é? Porque nós portugueses, felizmente ou infelizmente, estamos por todo o mundo e uma vez que eu vim para aqui, para a França, acho que era importante falar sobre isto, porque também não é muito conhecido aqui, não é? E pronto, e foi, lembrei-me de fazer este projeto, acho que assim.
Ora, agora eu ouvi falar que agora o projeto, agora é mais do que um projeto, está feito, está inscrito, agora há uma consulta. Josefina Bolsas, talvez explicar o que é que significa esta consulta, porque tenho algo, já falei consigo sobre isso, mas digo sinceramente, fiquei com muitas dúvidas.
Ora bem, o passo anterior da inscrição foi a consulta, digamos que direta. São pessoas que são incumbidas deste serviço, são pessoas especializadas, não sou eu, no caso não é a Sofia, não estamos habilitados para fazer a avaliação do processo de candidatura, e essa parte, essa etapa já foi atingida. A consulta direta foi também aprovada, digamos assim, foi bem aceita. E agora, se até agora não tínhamos, digo isto, não tínhamos, é sempre entre aspas, obviamente, não tínhamos voto na matéria, agora sim, nós agora somos obrigados, moral e eticamente, somos obrigados a pronunciar-nos sobre esta candidatura. E então temos a chamada consulta pública. E nesta consulta pública somos todos chamados a pronunciar-nos. E então a manifestar, que é o que se pretende realmente, a manifestar o nosso apoio a este processo que vai decorrendo passo a passo.
Sim, mas Josefina, uma pergunta. Bom, portanto, essa consulta é de até ao dia, até finais deste mês de maio. Como é que podemos fazer? O que é que a área de marcha fazer?
É até ao 14 de junho, um mês de dias úteis. Uhum. É um mês de dias úteis. Portanto, vai até ao 14 de junho. O que temos que fazer? Há realmente uma plataforma indicada para o efeito, que, pronto, eu considero, e há muita gente que considera, está a ser difícil aceder à plataforma, pelo menos até ao final de todas as operações necessárias. E então há outra possibilidade, e essa sim é muito simples, que é enviar um e-mail que podem colocar um assunto específico que eu posso indicar, e depois o texto será a nossa manifestação de apoio, dizer que realmente apoiamos esta candidatura por isto ou por aquilo, ou podem pôr um texto mais extenso, ou então aquela simples frase de apoio e solidariedade para com quem leva avante ou está a tentar levar avante esta demanda.
Mas qual é o endereço e-mail, então?
Portanto, o endereço e-mail é INPCI, portanto, Instituto Nacional do Património Cultural e Material, são as iniciais, INPCI@DGPC, portanto, Direção Geral de Património Cultural, .pt.
Ah, eu vou repetir, INPCI@DGPC.pt.
Exatamente, está correto.
Bom, e de qualquer maneira podemos ter acesso, bom, vamos aos vossos, às redes sociais, e vocês dão essas indicações.
Basta ir à minha página do Facebook, a Sofia Costa também tem, é muito simples, procura-se na minha página do Facebook, por exemplo. E este texto que isto que eu estou a dizer agora está lá bem claro, que os elementos da direção da Associação Canto Avós, Sala de Mulheres, está a partilhar com frequência para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta informação.
Ora, Sofia Costa, uma pergunta já agora. Bom, vocês vão ter, têm dois concertos agendados, dia 13 em Saint-Germain-les-Apes. Arpajon, sauf erreur de ma part, et Livry Guergon. De maneira que nos dias 13 e dia 4 será uma boa oportunidade para dizer, bom, meus amigos, enviem um e-mail para inpci@dgpc.pt, não?
Exatamente. Quem quiser pode vir assistir, vamos fazer os dois concertos. E claro, vou lembrar as pessoas lá pessoalmente.
Bom, e teremos a ocasião de anunciar isso. Josefina Bolsas, é algo de importante que praticamente quando vocês lançaram o projeto e apresentaram o projeto, arrancou na antena 2 o programa Vozes ao Alto Fala de Mulheres.
Exatamente.
Foi uma coincidência ou foram vocês que estiveram na iniciativa?
Nós andávamos a preparar esta atividade há algum tempo. Também estávamos à espera que esta etapa fosse atingida. Foi ouro sobre azul, porque no momento mais ou menos no momento em que esta etapa foi atingida, a Antena 2 estava disponível para começar a passar os episódios, portanto, em que passamos a cada segunda-feira um grupo. Em cada segunda-feira passámos um grupo às 11 da manhã e às 15, repete, e iniciou-se realmente por essa data e agora irá continuar até que a voz nos doa, porque a Antena 2 está receptiva a esta programação.
Tanto mais que o arranca, penso eu, foi uma grande senhora que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela ainda era professora primária, penso que já estão sabem de quem eu estou a falar, que é a filha da Isabel Silvestre, de Cantares Banhoso. Foi ela que deu o pontapé de arranque.
Exatamente, foi com ela. Ela, desde há muito tempo que ela achava que isto tinha de ser assim, e tinha que seguir este caminho, e muito graças à persistência, à determinação dela, chegámos onde já estamos agora. Sim, ela diz numa frase, quando começa o programa da Antena, quer queiram, quer não, ele já é património nacional, o canto a voz. Ela diz isto com a maior... Mas dizia já antes de isto estar no ponto em que está. Porque ela sempre acreditou, sempre teve muita persistência e determinação para que este processo andasse para a frente e continuar em frente, como nós esperamos que vá continuar.
Bom, é isso que nós queremos, e agora o que esperamos igualmente é que Portugal, o Ministério da Cultura, seja ele quem for, que se lembre de fazer... propor aqui à Unesco para precisamente que Canto a Voz das Mulheres seja considerado património cultural imaterial da Unesco, com tudo isso que implica, e nesse caso teremos direito à vossa vinda aqui até à capital. Boa, Sofia Costa já cá está. E obrigado às duas. Agora vou citar alguém que eu tive a ocasião de entrevistar algumas semaninhas atrás, poucas, não? Isso tinha a ver a volta com o exílio. Ela teve uma frase: as mulheres são 50% do mundo, mas os outros são os filhos delas.
Essa frase é imensa. Essa frase é imensa.
Diz tudo.
Bom, muito.
Josefina, Sofia, muito obrigado, e vamos continuar a acompanhar o vosso trabalho, evidentemente, e de maneira que, como diz, sem cultura não há vida. Não é por acaso que o antigo senhor lá, aquele que caiu de uma cadeira, ao que parece, detestava a cultura. Nós estamos no lado oposto. Obrigadíssimo às duas, e bem-ajam então.
Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigada. E eu digo obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e todos aqueles que nos acompanharam a ouvir, ou aqueles que interveram nesta emissão Passageiro Nivo, domingo, dia 14 de maio, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, sem esquecer o podcast de Bem-Ajam, e espero bem voltar aqui dentro de 8 dias.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas.